Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Mohamed Amer Mezian autour de son livre « Au bord des mondes, vers un tournant métaphysique de l'anthropologie » paru aux éditions Vue de l'Esprit, le 25 avril 2023 à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à toutes et tous et merci d'être venus plutôt nombreuses et nombreux. Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là. Pour assister à la présentation d'un livre à paraître, donc il est en avant-première à Terra Nova. Il s'agit du livre de Mohamed Amer Mezian, Au bord des mondes, sous-titré Vers une anthropologie métaphysique, et qui est sorti aux éditions, j'ai toujours tendance à dire Vie parallèle ou Zone sensible, mais en fait c'est Vue de l'Esprit, donc c'est un peu la troisième maison un peu qui gravite autour de Alexandre Lomonier en particulier, puis maintenant Sylvain Piron qui a monté cette maison il y a quelques mois. Donc Vue de l'Esprit qui propose de s'intéresser à l'invisible avec les techniques des sciences humaines, si je me trompe pas. Mohamed Amer Mezian, que je remercie chaleureusement d'être venu jusqu'à nous, avait publié il y a 3 ans un livre qu'on avait remarqué qui s'appelait « Des empires sous la terre », qui s'est sorti à la découverte, qu'on a malheureusement plus là, mais qu'on aura très vite, puisqu'on a vendu les derniers exemplaires la semaine dernière. Voilà, et donc la rencontre est enregistrée, donc si vous avez des connaissances qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à faire circuler. Ça sera dans un premier temps disponible sur le site de Canal Sud, dans quelques semaines, le temps de monter la session. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça va, on peut y aller. On va laisser Mohamed présenter son livre et puis ensuite on installera une session d'échange. Voilà. Bonne soirée. Merci Mohamed.
Okay. Bon, merci Fabrice et merci à la librairie de votre accueil. Et merci à vous toutes et tous d'être là ce soir. Alors, je vais commencer par présenter le titre en fait de ce livre qui s'appelle Au bord des mondes. Et il s'appelle Au bord des mondes pour une raison simple, qui est que c'est une réponse en fait à un certain type de débat ou une manière de poser un certain type de débat. Qui est que chez des anthropologues, chez des philosophes, on a une tendance à penser à la manière dont on peut, faire coexister des mondes ou une pluralité de mondes. Donc on pense simplement en termes de pluralité de mondes. Voilà. Les mondes humains, comment est-ce qu'ils peuvent coexister, comment ils se composent, comment ils se rapportent les uns aux autres, etc. Bon. Sauf que le problème, c'est que précisément pour les personnes qui habitent ces mondes, il n'y a pas que le monde et il n'y a pas que les mondes. Il y a des choses qui excèdent les mondes eux-mêmes, et c'est ce que j'ai essayé d'appeler « au bord des mondes ». Alors, c'est quoi qui excède les mondes, etc. Alors, évidemment, il y a des exemples, les esprits, les dieux, ce que, au fond, on a pris l'habitude en Occident d'appeler soit le sacré, soit la religion. Sauf que si on commence à dire ça, le sacré, la religion, on utilise justement des mots qui, en fait, semblent aller de soi et qui, en fait, ne vont pas de soi. Et c'est une des propositions de ce livre qui avait déjà été plus ou moins proposé dans le premier livre que tu as mentionné, à savoir que ce terme de religion est aussi problématique que le terme de nature. Effectivement, comme vous le savez, il y a un certain nombre d'anthropologues et l'argument a fait date, en fait, qui nous ont dit, qui ont proposé de remettre en cause l'universalité supposée du concept de nature en disant, au fond, on a commencé à croire qu'il y avait quelque chose comme la nature, qui serait cette espèce d'ensemble d'objets, de phénomènes qui nous ferait face et qui serait distinct de nous et qu'on pourrait objectiver par les sciences, etc. Au fond, que cette idée qui semble aller de soi est en fait une construction à la fois chrétienne, moderne et occidentale et par certains aspects coloniale. Bon. Mais en fait, l'idée, c'est de dire qu'il en va de même du concept de religion qui est un concept tout aussi tardif, qui est tout aussi chrétien et qui est tout aussi moderne et colonial. Ce qui veut dire en gros que quand vous dites « je suis pour ou je suis contre la religion », vous êtes dans un débat chrétien, vous êtes en fait dans un débat eurocentrique et qu'au fond, si on part du problème, c'est-à-dire à dire « ah, qu'est-ce que c'est que la religion, comment la définir, etc. », vous allez imposer un code, imposer une manière de voir sur justement ces mondes qui n'est probablement pas la mode. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut essayer de proposer comme outil conceptuel, comme concept et comme outil théorique pour essayer justement de remplacer cette vieille idée de religion. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Simplement parce que pour l'instant, religion, on pourrait dire la même chose du sacré, qui sont des mots par le biais desquels on met à distance certaines, les phénomènes même qu'on essaie d'expliquer par ces mots. Pourquoi est-ce que je mentionne ça ? Bah, précisément parce que c'est comme ça qu'on essaie de décrire ce que moi j'essaie d'appeler le bord des mondes. Voilà. Donc je l'ai dit, les esprits, les dieux, c'est-à-dire au fond effectivement ce qui relève de l'invisible et dont au fond depuis le déploiement des sciences humaines, mais précisément aussi parce que les sciences humaines reposent sur des thèses philosophiques et même métaphysiques qu'elles n'assument pas totalement, mais qu'au fond, les sciences humaines ont dit, bon, bah, en fait, cette part des choses, cette part du réel, l'invisible, si vous voulez, n'existe pas. Bon, bah, si vous partez du principe que ça n'existe pas, vous êtes enfin, en fait, en train... vous semblez dire quelque chose qui va de soi ou qui est très rationnel, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui a du sens même en Europe depuis peut-être deux siècles, enfin, en tout cas, quelque chose qui s'est imposé à la conscience dominante en Europe depuis quelques siècles. C'est-à-dire cette conception du réel qui consiste à dire, en gros, n'est réel que ce que je vois, quoi. Non pas simplement je crois ce que je vois, mais que ce que je vois, mais ça va un peu c'est un peu du même ordre, c'est n'est réel que ce que je vois. Mais en fait, vous faites justement de la métaphysique sans vous en rendre compte, puisque la métaphysique, au moins au sens minimal du terme, on y reviendra peut-être après, consiste en fait à dire, voilà, ceci est réel et ceci n'est pas réel. Bon. Et ça, c'est pas quelque chose qui est scientifique au sens où il n'y a pas une science comme ça, si rigoureuse soit-elle en apparence, qui pourrait venir dire, ah voilà, ça, les vrais critères du réel, c'est ça, et c'est là que ça s'arrête, et c'est là que ça commence. Une science peut sélectionner ce qu'elle va considérer comme son objet d'étude, donc elle va découper une part du réel en disant, voilà, c'est ça que j'étudie, elle va objectiver ça, mais ça veut pas forcément dire que cette sélection, que les limites de l'objet qu'elle considère coïncide avec les limites même du réel. Voilà, bon. Mais alors pourquoi est-ce que c'est une décision métaphysique de dire bah, toutes ces entités n'existent pas ? Bah, précisément parce que vous dites ça n'existe pas. Bon, l'invisible n'existe pas, entre guillemets. Quoi. En tout cas, un certain invisible ou la transcendance, ça c'est encore un autre mot dont j'essaie de me débarrasser, n'existe pas. Donc en un sens, vous faites une anti-métaphysique puisque vous dites que toutes les réalités qui sont au-delà de la physis, donc disons du monde sensible, pour faire très vite, tout ce qui va au-delà de ce monde sensible n'existe pas. Donc en fait, vous statuez sur en disant bah, ces réalités métaphysiques n'existent pas, donc c'est une anti-métaphysique, mais vous prenez position dans un débat qui est entre guillemets métaphysique. Bon. Alors c'est pour ça que le livre s'appelle « Vers une anthropologie métaphysique » et qui consiste à dire, écoutez, il n'y a pas qu'une pluralité de monde, puisque pour comprendre la pluralité des mondes humains, il faut comprendre la façon dont ces différents mondes, via leur tradition spirituelle, ont un rapport avec des réalités non seulement non humaines, mais non visibles. Alors du coup, la première chose que je devrais dire probablement, et peut-être que si vous avez lu la quatrième de couverture, vous vous en êtes rendu compte, c'est que ce livre est aussi une manière de prendre position, de discuter de manière plus ou moins critique avec un champ littéraire et philosophique, théorique, qui s'est énormément développé depuis 20 ans, pour faire large, puisque je crois qu'en fait, ça s'est réellement accéléré depuis moins de temps. Mais c'est un ensemble de livres dont probablement un certain nombre d'entre vous constituent des lecteurs ici, qui, au fond, parlent de notre rapport aux animaux, aux plantes, à la terre, et qui s'inscrivent dans une sorte de vague plus ou moins explicitement animique ou animiste. Alors, probablement, le début de ce courant, en tout cas en France, date probablement des travaux d'Escola, mais d'autres aussi. Mais y a en tout cas quelque chose qui s'est formalisé et formulé dans cette anthropologie, qui consiste au fond à dire, bon, nous, on est des naturalistes, donc on a divisé, on a séparé la nature et la culture, l'humain et l'non-humain, et le pôle opposé, même si dans ce modèle, il y a quatre manières de considérer le monde que cet anthropologue ontologie. Au fond, le pôle réellement opposé, ce sont les animistes, qui est un terme qui a été réactivé, qui vient justement des sciences des religions à la base, réactivé pour désigner une... Alors justement, Descola évite le terme religion, il dit ontologie, pardon, une ontologie qui attribue non seulement une âme aux plantes et aux animaux, mais au fond attribue une personnalité, voire une humanité, en fait, à ce que nous, on considérait comme non humain, et faisant, en fait, complètement imploser, enfin, rendant complètement caduque notre distinction entre nature et culture. Bon. Alors, l'idée derrière ce texte, c'est, derrière ce livre, c'est de dire, est-ce que c'est aussi simple que ça, premièrement ? Pourquoi est-ce que l'animisme est autant à la mode en Occident ? Pourquoi est-ce qu'on en raffole, voire qu'on en dévore ? Et est-ce qu'on a affaire à un phénomène néo-exotique ? Et si oui, pourquoi est-ce que ce type d'interventions sont liées à l'anthropologie, qui est une discipline qui ne va pas du tout de soi, puisque c'est une discipline par essence coloniale ? Est-ce que le fait de réfléchir aux choses de cette manière suffit à dissoudre la colonialité de l'anthropologie ? Est-ce qu'il suffit de dire que quand on remet en cause l'anthropocentrisme, déjà, est-ce que parler d'animisme, c'est suffisant pour remettre en cause l'anthropocentrisme ou l'anthropomorphisme ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut poser la question. Et surtout, est-ce que ça suffit, quoi ? Et alors, en fait... À partir de là, si vous voulez, l'idée, c'est de dire à peu près deux choses. Bon, la première chose, c'est que ce n'est pas une attaque ou une critique frontale, c'est plutôt une manière de dire c'est pas le seul diagnostic qu'on peut faire de l'Occident, c'est-à-dire c'est pas la seule anthropologie des modernes, comme pour parler comme Descola et Latour, qu'on puisse faire, puisque nous ne sommes pas simplement, l'Occident ne se résume pas à cette espèce de partage de la nature et de la culture, ne serait-ce que parce que l'Occident a cru en la religion. Ce qui ne veut pas dire croire en Dieu, ce qui veut dire croire en la religion, ce n'est pas pareil. La rencontre coloniale, entre guillemets, ne se fait pas, par exemple, au moment de la découverte des Amériques, ou de la soi-disant découverte des Amériques d'ailleurs. Elle se fait justement par le biais de cette invention du concept de religion dont j'essayais de parler. Cette invention du concept de religion vient du fait de dire « Ah, est-ce que les êtres humains qui nous font face sont justement vraiment des êtres humains ?» Alors évidemment, la controverse de Valladolid, c'est un moment qui a pris une place assez prépondérante dans les imaginaires européens et aussi américains, en fait, marquer quoi, ce moment, les débats en fait, qui ont émergé à ce moment-là. Mais en vérité, une des choses qu'on retient très peu, c'est que quand Las Casas répond à Sepúlveda, Sepúlveda qui, en fait, est dans une sorte de dynamique de pure et simple continuation de la croisade et, en fait, dans une logique d'extermination, puisqu'il assimile plus ou moins les indigènes à des figures diaboliques ou, en tout cas, possédées par le diable. Las Casas, en fait, commence, lui, en défendant, justement, la convertibilité, la possibilité de convertir les indigènes au christianisme, en fait, va commencer avec notamment quelqu'un qui s'appelle De Acosta, à lancer les prémices de ce qui va devenir l'anthropologie, justement en disant, mais non, regardez, ils sont convertibles et potentiellement humains dans la mesure où, en fait, ils n'ont peut-être pas la vraie religion, mais ils ont une religion, donc ils ont les capacités naturelles d'accéder à la vraie religion, qui est évidemment pour lui le christianisme. Et donc, ils sont, si vous voulez, vous voyez là, qu'ils sont humanisés dans la mesure où ils ont on leur attribue justement une religion. Évidemment, des gens comme Sepúlveda, probablement c'était aussi la position de Christophe Colomb, disait bah non, surtout pas, ils n'ont pas de religion. Donc vous voyez que le fait d'universaliser le concept de religion, d'attribuer la religion à l'autre, qui est d'abord un geste très humaniste et en un sens inclusif, mais inclusif dans le dispositif de conversion, inclus dans l'humanité chrétienne, au fond, quoi. Ben là, vous voyez, en fait, qu'il y a quelque chose de paradoxal que moi, j'analyse comme, au fond, les prémices de ce que, dans mon premier livre, j'avais essayé d'appeler la sécularisation, justement. C'est que là, il y a une tension qui se met en œuvre, dans la mesure où, d'un côté, vous avez la mission chrétienne qui se déploie comme mission coloniale, et elle se déploie en universalisant le concept de religion, donc en disant en fait tous les êtres humains ont une religion, la religion est naturelle à l'homme. Et en même temps, vous voyez bien que ça commence à créer des effets d'hérésie, puisque c'est quand même un peu étrange, et ils s'en rendent bien compte, ceux qui écrivent, de dire église, de dire religion, alors que le seul, pour justement parler de la religion des indigènes ou de ceux qu'on appelait les mahométans à l'époque. Bon. En gros, de faire sortir les termes chrétiens hors de la théologie chrétienne, pour qu'en fait les termes chrétiens deviennent en fait des termes anthropologiques, descriptifs, et non pas purement théologique, c'est le terme en fait, ou orthodoxe. Et donc, au fond, ça veut dire que c'est si on suit cette transformation du concept de religion, hein, je ne parle pas du concept de religion, c'est-à-dire que pour moi, je considère que religion, c'est vraiment un terme dont je ne considère pas qu'il renvoie à quelque chose réellement, en fait. Il renvoie à quelque chose de très confus, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je ne suis ni en train de vous dire je suis pour la religion ou je suis contre la religion, puisque, en fait, c'est ce débat que j'aimerais dissoudre, puisque c'est un débat, justement, qui vient, d'une certaine manière, de la colonisation, qui vient, d'une certaine manière, de l'Occident moderne, et qui fait partie du problème, quoi. Alors après, on pourra parler de ce que ça signifie réellement, puisque bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est complètement irréel, mais ça veut dire que c'est un terme vague qui ne permet pas de voir certaines choses. J'essaie de parler des tensions qui se mettent à l'œuvre, enfin qui se déploient à ce moment-là. L'idée, c'est plutôt de dire, si vous voulez, que, enfin, autre chose, c'est que vous voyez bien qu'à partir du moment où quelqu'un comme Las Casas peut dire, voilà, les indigènes ont la mauvaise religion, etc., commence à se poser la question de savoir, ok, s'ils ont la mauvaise, mais je veux dire, si tout le monde a une religion, ça vient d'où ? C'est la nature humaine qui crée les dieux ou pas ? Alors évidemment, du point de vue de Las Casas qui est chrétien, non. Mais vous voyez bien que les premiers arguments anticléricaux de ce qu'on appelle la critique de la religion, elles viennent aussi justement avec cette hypothèse selon laquelle les humains inventent des dieux, les humains ont besoin de sacrés. Elle vient en fait, cette hypothèse, elle se formule, elle se déploie, elle se diffuse en Occident justement dans la mesure où elle fait partie de tous ces débats anthropologiques eux-mêmes. Là, j'ai parlé de cette critique du concept de religion, et du coup, vous pouvez me poser la question de savoir, ok, d'accord, mais je veux dire, ok, comment on analyse ça différemment ? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que quand spontanément, vous et moi, on pense à religion, on va penser à croyance, système de croyance. Or, le premier problème qui se pose quand on pense d'abord et avant tout à des systèmes de croyances, c'est précisément que ça suppose une manière de considérer justement ce que les fidèles font, de le considérer en fait de manière à la fois intellectualisante et en mettant en fait une certaine représentation, encore une fois, relativement ecclésiale et chrétienne au centre de l'affaire, en disant bon voilà, c'est-à-dire que tout se joue en termes de est-ce que en quoi les fidèles croient, voilà, c'est-à-dire au fond cette notion d'une doctrine qui serait appuyée par l'Église serait centrale et serait la chose qui détermine si oui ou non vous êtes un hérétique, ce qui effectivement a été le cas à certains moments de l'histoire du christianisme, mais qui n'est pas forcément quelque chose qu'on peut universaliser. Alors précisément, on voit qu'un modèle chrétien, ecclésial, lié à l'Église, va être projeté justement sur les autres mondes, et non pas seulement sur les autres mondes, mais sur le rapport des autres mondes à leur bord ou à ce qui les excède. Une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'est de dire, bon, si ce n'est pas un système de croyance, qu'est-ce que c'est ? La première chose, c'est que c'est un ensemble de pratiques et qu'au fond, c'est la pratique elle-même, en fait, qui va faire en sorte que vous pouvez avoir accès à certaines réalités ou non. L'autre chose du problème du système des croyances, c'est que ça présuppose qu'il y a des croyances et que, d'une certaine manière, ce qui définit une communauté de fidèles, c'est ce sur quoi ils sont d'accord. Or, dès lors que vous pensez non pas en termes de religion, mais j'ai introduit le mot en termes de tradition, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement des transmissions qui se font, mais sur la base de désaccords entre différents fidèles. Donc le fait que vous soyez d'accord sur des sources va en fait donner lieu à des débats perpétuels, permanents, sur le sens de ces sources, sur la manière dont ces sources doivent être appliquées, potentiel de discussion, potentiel de désaccord et bien sûr potentiel de conflit. Ceci étant dit, ça veut dire que, en gros, les institutions religieuses qui sont premièrement ce à quoi on pense dès lors que on est spontanément laïque ou qu'on vient d'une société laïcisée, je dirais comme vous et moi, c'est tout de suite à ce que ces institutions verticales font, c'est-à-dire d'exercer un certain type de violence au nom de Dieu ou de certains dieux, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que ces institutions, en fait, essaient de capter un ensemble, en fait, de débats, de discours, en fait, une certaine forme de vie, éventuellement à leur profit, mais qu'au fond, ces institutions qui sont effectivement des institutions humaines n'ont pas nécessairement l'apanage, en fait, des réalités justement métaphysiques qui sont visées par ces fidèles. Bon, alors, j'espère qu'on reviendra là-dessus. Je vais essayer de revenir sur des choses un petit peu plus concrètes. Vous pourriez me dire, bon, ok, mais il parle de quoi là, de quoi il s'agit? Bon, alors, en fait, il s'agit en fait, et je vais revenir au titre, il s'agit de, en tout cas dans ce livre, il s'agissait de faire droit à l'expérience du rêve. Il y a eu énormément de livres, en fait, très, très bons, pas seulement en français, mais notamment en français, qui ont été publiés justement sur l'expérience du rêve, sur les rêves chez les aborigènes. Tu as mis le livre de Barbara Glosevski là-bas, ou plus récemment les travaux de Nastia Saint-Martin et d'autres qui là m'échappent dans l'instant présent, mais qui sont probablement qui sont des livres qui vous sont probablement plus familiers. Bon, alors pour revenir à pourquoi est-ce que tout ça se fait un petit peu en débat avec les toute cette littérature sur l'animisme, etc. C'est que moi j'avais été frappé par l'absence, justement, et c'est pour ça que je vous parle de tout ça depuis le début, j'avais été frappé par l'absence, que ce soit chez Descola ou chez d'autres anthropologues, donc l'absence de ce qu'on appelle, et j'aime pas le terme mais je vais l'utiliser à dessein pour que vous voyez immédiatement de quoi je parle, des monothéismes. En général, c'est probablement, c'est une hypothèse mais je pense qu'elle est vraie, parce que dans la littérature écologique et écologiste, on répète un même mythe qui est un mythe, il faudrait voir pourquoi, peut-être que c'est pas l'objet aujourd'hui, consistant à dire que les monothéismes sont source de violence plus que les autres, qui est une vieille thèse de l'orientalisme. Deuxièmement, aussi parce qu'on considère souvent que la crise climatique viendrait du christianisme et donc d'une certaine manière de cette idée monothéiste elle-même, qui est une idée qui a une sombre histoire politique d'ailleurs, puisqu'on la trouve en fait dans une certaine pensée d'extrême droite, mais à l'encontre évidemment de la tradition dite judéo-chrétienne. Mais au fond, sans vouloir dire bien sûr que c'est un préjugé qui est répété de manière consciente, ce qui me paraissait étrange, c'est de voir une certaine anthropologie générale se déployer sans prendre en compte de manière justement anthropologique, dans des termes anthropologiques, ces traditions qui sont d'une certaine manière beaucoup plus proches de nous. Alors du coup, la question, c'est de savoir comment on fait, et surtout si on les prend en compte, que ce soit l'islam, le bouddhisme, que ce soit... alors le bouddhisme n'est pas monothéiste, justement, c'est ça qui est intéressant. On pourrait rajouter le sikhisme. Voilà, bon, pourquoi est-ce que tout ça, ça ne fait pas partie de l'affaire, et pourquoi il n'y a pas d'ontologie sikh, par exemple, chez Descola, quoi, bon, où il n'y a pas d'ontologie... voilà, bon. Mais en fait, d'une certaine manière, bon, je vous dis ça un peu de l'intérieur comme... une forme de spécialiste, moi je ne dirais jamais il y a une ontologie musulmane, enfin si vous partez de là, c'est en fait il ne se passe rien, et c'est surtout la dernière chose qu'il faut dire, il n'y en a pas, en fait. Il y a des choses beaucoup plus complexes, il y a peut-être ici localement tel et tel fidèle de cette tradition qui va pouvoir déployer encore quelque chose comme une ontologie, mais à la limite contre un autre, et probablement de manière très superficielle, et je vais essayer d'y venir. Pourquoi ? Je dis ça de manière superficielle parce que au bord des mondes veut aussi dire, enfin, est une traduction d'un terme arabe qui est le terme, alors je vais le dire sans accent, barzakh, barzakh. Donc barzakh, c'est-à-dire B-A-R-Z-A-K-H. Et alors, barzakh, littéralement, signifie frontière, isthme, donc espace entre deux mondes ou entre deux réalités, qui est à la fois le principe, ou plutôt l'espace, le lieu qui sépare deux choses et qui les unit par le fait même de les séparer, justement. Et en fait, cette notion de barzakh, elle sert en fait à interpréter les rêves. Et j'aimerais bien vous montrer comment. Et à partir de là, j'ai déployé, un dernier point peut-être ouvrira la discussion sur cette base. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que si on regarde un certain nombre justement d'études ethnographiques qui ont été faites, en Afrique du Nord, pour faire vite, parce qu'en fait on pourrait dire que certains nombres d'études du même type ont été faites en Asie du Sud en fait. Bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait on voit qu'effectivement des gens rêvent et que ils et elles n'interprètent pas leurs rêves en partant du principe que les rêves se passent dans leur tête ou que ce soit simplement des productions psychologiques. Certains rêves le sont, d'autres ne le sont pas. Bon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les rêves qui ne sont pas simplement des réalités psychologiques, qui sont des rêves-visions, par définition. Alors, pour celles et ceux qui font ces rêves, alors ça peut être... À la limite, vous allez très rapidement voir que l'objet de la vision m'intéresse beaucoup moins que l'endroit où cette vision est censée avoir lieu. Parce que ça peut être quelqu'un qui est mort, qui apparaît. On considère qu'il apparaît réellement. Ça peut être le prophète, puisque là, on parle on parle de la tradition musulmane, mais dans d'autres, ça pourrait être autre chose. Mais ça peut être aussi des amis ou du prophète lui-même, etc. Bon. Mais à la limite, peu importe. Puisque ce qui est intéressant, c'est de voir que pour pouvoir comprendre non seulement l'expérience des rêves et le récit qui en est fait, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans les termes des acteurs eux-mêmes, ce qui est la base d'une perspective critique et anthropologique, c'est-à-dire vous n'allez pas projeter vos catégories ou ce que vous pensez être réel, même si vous pensez que, très bien, vous pensez que les rêves sont des productions psychologiques et peut-être que vous pensez que c'est plus rationnel. Peut-être que c'est plus rationnel, mais la base de départ, c'est de ne pas projeter cette certitude sur les autres. Et donc, vous prenez au sérieux ce qui est dit. Bon, bah, qu'est-ce qui est dit ? Bah, l'expérience n'a de sens que si elle est vécue par la personne comme quelque chose qui lui vient d'ailleurs, d'autre part. Et donc, c'est quoi cette autre part ? Eh bien, justement, c'est un lieu des rêves. Il y a un lieu des rêves. Là, vous allez me dire, le lieu des rêves, bon, très bien, mais c'est quoi ? Eh bien, justement, c'est là que cette tradition d'interprétation est plus intelligente que nous, entre guillemets. Puisque, justement, elle vient nous questionner à l'endroit que moi, j'appellerais de la métaphysique, qui est la question de savoir comment vous pensez une chose aussi abstraite que le réel. Le lieu des rêves, bon, ça n'existe pas. Il est où ? Justement, c'est exactement ça qu'on est en train de dire, c'est que c'est un lieu, il y a un espace, et en fait, on est précisément en train de vous dire que puisque c'est un bord entre mondes, c'est un monde entre les mondes, bah, en fait, c'est précisément une réalité qui a pour essence et fonction de remettre en cause tout partage possible entre le présent et l'absent, entre l'être et le non-être, entre l'existence et la non-existence, entre le mort et le vivant, qui est justement caractérisé comme tel. Ce qui signifie un geste en fait, qu'on peut théoriser assez facilement, c'est que tout ce qui est réel ne correspond pas en fait, à l'opposition entre être et non-être. Donc, par définition, ça ne correspond pas non plus entre « j'y crois, j'y crois pas ». Et donc, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que y a en fait là une tradition philosophique qui est en même temps mobilisée pour interpréter concrètement ces rêves eux-mêmes en disant non, ça a lieu quelque part et en fait ce quelque part eh bien précisément est un endroit si vous voulez intermédiaire qui a pour fonction de nous faire passer autre part, de nous faire, de nous donner accès à quelque chose qui n'est pas visible, en faisant quoi ? Bah précisément en questionnant, en fait. En questionnant la possibilité même de pouvoir identifier ce que vous voyez là, ou la présence, ou le visible, au seul réel qui soit. Alors, ceci étant dit, le dernier mot, en fait, qui sera le mien, c'est que, effectivement, dans les discussions qu'il y a eu autour de ce livre, qui ont été faites avec un certain nombre d'anthropologues, justement, de personnes qui sont, enfin, d'historiens, mais aussi de personnes qui s'intéressent aux sciences des religions, bah, c'est que précisément, je fais partie, en fait, d'une tradition de pensée qu'on essaye justement d'introduire aussi en France via la traduction aussi de livres d'un anthropologue qui s'appelle Talal Assad, et il faudrait aussi parler de tous ceux qui se sont inspirés de lui, celles et ceux. Mais ce que je voudrais dire très simplement, pour peut-être que vous, que ça soit peut-être plus clair, ou que vous compreniez, ou je ne sais pas comment dire ça, c'est que la dernière chose que je voudrais faire, c'est de dire que ce qu'on appelle les religions serait un objet de science. Ça a été la grande hypothèse, je dirais, de la pensée moderne, séculière, etc., à savoir de dire, bon voilà, il y a les religions, ce sont des entités bien délimitées, donc il y a l'islam d'un côté, le christianisme de l'autre, ce sont des systèmes de judaïsme de l'autre, etc. Il faut savoir que judaïsme, par exemple, est un terme qui n'apparaît pas avant le 19e siècle, mais c'est un terme purement extérieur. Alors islam, c'est plus compliqué parce que c'est un concept, mais islamisme à la base était la manière dont au 19e siècle on a appelé l'islam, qui ensuite est devenu une manière de caractériser un courant d'islam, disons d'islam politique ou de politisation de l'islam bien précis. Bon, christianisme, même christianisme, mais bon, il est moins récent, puisque c'est plutôt, si je me trompe pas, 17e, il faudrait vérifier, mais il est pas si ancien. Sikhisme encore plus ancien, animisme encore plus ancien, etc. Bon. Et cette vieille science des religions, vous voyez, qui appartient au dispositif anthropologique, qui bien sûr a toujours été, il suffit de lire Durkheim, etc., un des endroits où par excellence on a parlé des peuples primitifs, en disant qu'il y avait les peuples supérieurs. Et il ne faut jamais oublier que le récit de sécularisation a toujours fait partie de la manière dont on a imaginé ces espèces de stades, en disant, ah, le christianisme est peut-être une religion, enfin c'est une religion, donc c'est problématique parce que Dieu n'existe pas, blablabla, etc. Mais c'est quand même la religion de la civilisation, puisque c'est le dernier stade, vous voyez. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque, l'évolutionnisme, c'est aussi fait comme ça. Il suffit de lire Hegel pour voir ça, etc. Bref. Mais ce à quoi je veux en venir, c'est autre chose. C'est de dire, vous voyez, là, quand vous réfléchissez comme ça, on a l'impression qu'il y a des espèces de totalités civilisationnelles, un peu closes sur elles-mêmes, etc. Donc, comme je disais, le judaïsme, l'islam, etc. Bon. Alors qu'en fait, alors là, c'est vraiment pour prendre un seul exemple, je veux dire, vous ne comprendrez jamais l'islam, par exemple, ou même la base même des idées fondamentales du Coran, sans voir que c'est en dialogue permanent et dès le début avec les traditions juives, par exemple. Vous voyez, donc, en fait, vous avez affaire non seulement à des traditions, mais à des traditions qui parlent avec d'autres traditions, de manière perpétuelle. Bon. Et il ne suffit pas simplement de dire, même si c'est vrai, que tout ça est plus complexe. La question, c'est de savoir comment vous analysez cette complexité. Comment est-ce que cette complexité, elle est architectonique, donc c'est-à-dire que ces éléments se réfèrent aux autres, font sens vis-à-vis des autres, etc. Bon. Et en fait, en vérité, pour réellement, si vous voulez, déployer une réelle science de ces objets, il faut justement quitter l'objet, c'est-à-dire dire que ce dont on parle, c'est autre chose que les religions, ou la religion, c'est autre chose. Et donc, d'une certaine manière, cette autre chose, j'essaie, moi, de l'appeler métaphysique ou rapport entre métaphysique et anthropologie. Donc, je vais m'arrêter là et j'espère pouvoir clarifier certaines choses qui, peut-être, ne le sont pas dans la discussion. Mais je vous remercie de votre attention.
Est-ce qu'il y a des questions ?
En fait, c'est par rapport au titre, pourquoi au bord, au singulier et pas au pluriel ? Pourquoi est-ce qu'il y a une explication ?
Alors, est-ce qu'il y a une explication du fait que c'est le singulier et pas le pluriel ? A priori, pour être tout à fait honnête, non. Mais en fait, si. Parce que, en fait, alors c'est pas dit dans le livre, je vais pas m'amuser à faire ça, mais je pense que j'essaie de contribuer avec d'autres à ouvrir un espace pour que ça soit possible. C'est que, vous voyez, par exemple, quand on se représente les choses de manière... vous voyez, on a une tendance à se dire, bon, c'est quoi le monde est fait d'une pluralité de cultures, ok ? Les mondes, quoi, humains. Donc, il y a une culture d'un tel, voilà, la culture, comme ça, là. Puis, on regarde sur la carte, il y a des cultures et des êtres humains qui appartiennent à des cultures. Je ne dis pas que c'est faux. Beaucoup d'anthropologues, de philosophes, de théoriciens, etc., ont montré que, de toute façon, c'était plus complexe, puisqu'il y a des interrelations, qu'il y a des connexions, il y a des influences. Mais, globalement, on est sur un plan, comme ça, qui est, disons, horizontal. Et c'est très bien. Mais peut-être qu'il n'y a pas que ça. Moi, quand j'essaie juste de dire, et ça a été d'une certaine manière interdit par la pensée philosophique depuis peut-être, allez, depuis le milieu du 19e siècle, mais surtout au 20e siècle, tout ce qui a trait à la transcendance, c'est mauvais. C'est le mal, c'est la domination, c'est la violence. C'est, donc il faut tout abolir et être que sur un plan d'horizontalité. Bon, très bien. Le problème, c'est que s'il y a des gens, il y a des êtres humains sur cette terre qui, eux, parlent de ce qu'on appelle transcendance, vous faites quoi ? Vous les mettez à l'écart de l'horizontalité ? Ben, dans ce cas-là, ce n'est pas une horizontalité. Vous voyez ? Donc, il y a une possibilité de dire, bah, peut-être que si on s'intéresse à ce à quoi... Alors justement, vous voyez, on va retrouver le terme de croyance. Ce à quoi les gens croient. Mais justement, il faut essayer de se débarrasser de ce mot et de dire ce qui est réel pour ces gens-là. Vous voyez ? C'est ce que j'essaie de dire. Vous voyez ? Ce qui est réel pour eux, voilà. Bah, dans ces cas-là, vous voyez qu'en fait, on peut discuter. Parce que souvent, ce qui est réel pour ces gens-là, en général, c'est construit en dialogue avec ce qui est réel pour les autres. Et souvent, pour ces gens eux-mêmes, en fait, c'est du même réel qu'ils parlent sous différentes formes. Alors certains, ça va être l'un, la réalité ultime, Dieu. Pour certains, Dieu n'est qu'une forme peut-être mal digérée de réalité ultime, vous voyez, etc., etc. Mais même dans des registres non monothéistes... tel dieu correspond en fait à tel autre dieu, voilà. Et nous, en fait, on ne parle plus de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a complètement perdu ça. On est, enfin, ou quasiment. On essaie de le retrouver. Ça, c'est clair. Parce que du coup, cette littérature animiste et anthropologique dont je parlais montre bien qu'on a conscience globalement dans un certain public cultivé en Occident. Et c'est très bien par certains aspects, même si ça m'arrive d'être un petit peu facétieux à l'égard de tout ça. Mais c'est pour réveiller un petit peu les gens en disant, bon, ben, questionnons-nous sur nous-mêmes. On voit bien que ça va dans le mur, cette affaire, cette civilisation-là. Sauf que l'extractivisme, tout ça, etc., ce n'est pas simplement une question d'économie. Et ce n'est pas non plus simplement une question d'avoir retiré les âmes des plantes, etc., puisque ce n'est certainement pas la seule manière dont on peut déployer un autre rapport à la Terre. Donc, au bord des mondes au singulier, lié au fait que peut-être qu'il n'y en a qu'un. Peut-être. Mais bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est bien le pluriel, etc. Mais vous voyez, en fait, j'essaie simplement de vous questionner sur le fait que notre valorisation du pluralisme, par exemple, qui est très bien par certains aspects politiquement, etc., si vous regardez la manière dont une certaine... un certain geste anthropologique va se mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on va parler justement, comme je l'ai dit, de la pluralité des mondes. Vous voyez, bon. Et tout ça, c'est très bien, mais sauf que souvent, chez un certain nombre d'anthropologues, ils utilisent des auteurs, en fait, qui sont des philosophes européens, donc c'est Whitehead, Deleuze, etc., du XXe siècle. Enfin, Whitehead, c'est début XXe siècle, mais puis il est anglais, donc c'est un peu différent, mais disons des philosophes occidentaux, pour, en fait, concevoir cette pluralité elle-même. Donc, vous voyez, c'est un peu étrange. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre un code européen pour dire comment est-ce que la pluralité des mondes se déploie, ou des cultures, c'est un peu pareil dans ce cadre-là. Mais vous voyez bien que là, vous êtes déjà en train de faire un geste de projection, quoi. Mais donc, bon, je vous réponds de manière un peu spéculative sur le fait que j'en ai mis qu'un parce que je voulais simplement dire qu'il y avait la possibilité que... pour ces mondes eux-mêmes, peut-être qu'il n'y en a qu'une réalité. Voilà, vous voyez, c'était ça, quoi. Voilà.
Très bref. Mais merci pour la question. Et en fait, ce que vous venez de dire et aussi la présentation me fait quand même, me fait beaucoup penser à la critique de Jacques Rébarty dans Provincialiser l'Europe. Et est-ce que vous pouvez dire en quoi c'est différent ? Ou en quoi c'est un peu la même cette histoire de, voilà, de concevoir en fait cette pluralité à partir de points de vue de l'Occident et faire fi aussi de la transcendance, de la religion, etc. Ouais. Ça me paraît très proche, mais peut-être qu'il y a des...
Non, vous avez raison. Et d'ailleurs, il est cité au début du livre. Et je vous remercie aussi de noter ça, puisque, si vous voulez, je trouve que ce livre, en fait, c'est pas forcément ce qu'on en a retenu, cette partie-là, quoi. Mais la deuxième chose, c'est que dans ce livre, moi, j'ai été convaincu par le fait qu'il pose le problème en lisant, en fait... un débat qui a eu lieu entre un historien marxiste et un historien dit des études subalternes, qui, enfin, vous savez probablement ça, mais je recontextualise pour les autres, qui justement traite de la révolte des Sipayes, donc qui est une révolte de résistance au colonialisme britannique dans les années 1850-1857, plus exactement, qui avait justement été par le colonialisme britannique a été appelé, avait été défini comme une révolte qui venait du fanatisme. Ça, vous voyez aussi ça vraiment dans le colonialisme français, c'est-à-dire le fanatisme. C'est cette espèce de puissance insurrectionnelle. Alors c'est pareil, c'est un mot colonial, mais qui n'est pas purement une simple vue de l'esprit, dans la mesure où, effectivement, alors c'est pas du fanatisme qui est à l'œuvre, mais effectivement, vous avez, en fait, chez les acteurs de ces révoltes ou de ces insurrections, une manière de considérer le monde et leur propre action, ou dans lesquelles c'est pas simplement l'humain qui agit, mais c'est pas non plus les plantes et les animaux, puisque ce sont des esprits, des dieux, etc., bon, qui agissent avec eux, quoi. Mais ça se passe aussi dans le cadre par exemple, si vous prenez le cas de ça marcherait dans l'Algérie coloniale au 19e siècle, enfin la colonisation de l'Algérie au 19e siècle, ou d'ailleurs, moi j'avais cité cette phrase d'Abdelkader dans le premier livre, je sais plus ce que c'est exactement maintenant, mais c'est Abdelkader qui dit à Bugeaud, de mémoire, hein, vois-tu la vague qui se soulève sur ton passage, et quelque chose du genre, justement, cette vague et l'image de ton passage en Afrique, quelque chose comme ça. En gros, ça veut dire que leur mouvement, c'est la vague, et que au fond, lui, oui, c'est ça, il le compare à un oiseau qui en fait, de son vol, va en fait réveiller une vague, etc., mais en fait, qui, d'une certaine manière, est emporté par cette vague elle-même. Et dans un autre, dans la suite, il dit simplement, en gros, on va faire en sorte de résister à tes attaques ici et là, mais en fait, en définitive, on laissera aussi l'environnement faire le reste, etc. Bon, je cite ça aussi simplement pour vous montrer qu'on a affaire à des... C'est facile de les appeler décoloniales comme ça, mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas du tout le même imaginaire que ce qui se passe au XXe siècle, puisqu'on n'est pas dans quelque chose d'humaniste, on est dans effectivement une pensée plus cosmique d'une certaine manière, dans laquelle effectivement des forces non humaines, mais alors c'est pas le non humain, c'est la seule chose que j'essaie de dire peut-être dans ce livre, c'est qu'il y a non humain et non humain, c'est-à-dire qu'en fait le non humain qui est à la mode, c'est le non humain visible, c'est les plantes et les animaux, mais en fait les non humains qui sont pas à la mode, c'est les esprits et les dieux, quoi. Donc moi j'essaie de penser le non humain qui est pas à la mode, voilà. Voilà, j'aurais dû dire ça, voilà. Bon, bah c'est fini. et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, Chakrabarti, dans ce livre, il fait le constat du fait que les sciences humaines, effectivement, elles ont des il parle de présupposés ontologiques qui ne permettent pas de faire droit à cette affaire. Bon, et je suis d'accord avec lui, mais ces présupposés ontologiques, j'ai envie de dire, il y a l'ontologie elle-même dedans. C'est-à-dire que c'est des présupposés métaphysiques et l'ontologie en fait partie. C'est-à-dire cette idée de l'être, du discours sur l'être, c'est grec. Alors par certains aspects, ça s'est désoccidentalisé d'ailleurs beaucoup plus dans la philosophie musulmane qu'ailleurs, et juive et musulmane qu'ailleurs. Mais moi, je pense que le terme d'ontologie, par exemple, n'est pas universalisable. Bon. Et quant à Chakrabarti, je n'ai pas vu encore chez lui, en tout cas pas dans ce livre, d'outils théoriques qui permettent réellement de dire bah, « donc, ok, mais qu'est-ce qu'on fait du coup ?» pour les envisager ces réalités de manière plus positive. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu ça. Il donne, et d'ailleurs, je me souviens pas exactement de la formulation, quelque chose qui, moi, m'a pas paru satisfaisant, mais qui est très programmatique. Il donne des idées, mais il n'y a pas vraiment de programme. Voilà. Et moi, j'aurais tendance à dire, et c'est une des thèses du livre, qu'en fait, tant que on fait pas appel en fait à la philosophie et que on ne fait pas jouer un rôle central à la philosophie dans les sciences humaines, on s'en sortira pas. Voilà. Et ça, je ne pense pas qu'ils le disent. Mais loin de moi l'idée de vouloir dire « Ah oui, alors moi, je suis différent parce que ça fait partie d'un processus ou d'un geste collectif. » Et du coup, voilà, j'ai pas trouvé chez lui et d'autres, et pas non plus chez Tel Al-Assad, qui cite par ailleurs que Chakrabarti cite, avec qui j'ai travaillé, que je connais très bien, etc. Donc moi-même, j'ai aussi écrit ce livre à la fois avec et contre l'héritage d'Assad. Donc Assad, qui est un très grand anthropologue, très peu connu en France, qui est en fait un des amateurs de la critique postcoloniale, dans la mesure où il a lui-même en fait influencé Edouard Saïd, et que la critique de l'orientalisme que vous trouvez chez Saïd se trouve dès 73, donc début des années 70, dans un texte appelé Anthropology and the Colonial Encounter, donc l'anthropologie et la rencontre coloniale. Donc moi-même, j'en suis arrivé à formuler un certain type de critique d'Assad, dans la mesure où, par exemple, lui essaie réactive toute une pensée des pratiques, de la vertu, des dispositions à agir pour essayer de comprendre la foi. Aussi Tania Luhrmann, qui a été publiée aussi par les éditions Vue de l'Esprit, qui essaie de montrer justement comment la foi, est comme quelque chose qui vit et qui se déploie par la pratique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne pratiquez pas, il est normal que vous n'allez pas, que vous ne croyiez pas, en fait. C'est-à-dire que c'est une disposition qui se... D'accord, mais moi, j'essaie juste de poser la question de savoir, ok, très bien, mais fidélité à quoi ? Et fidélité à quoi ? Bah, à quelque chose. Mais comment on pense ce quelque chose ? Voilà. Ce quelque chose... Alors, si vous dites, bon, bah, c'est le sacré. Là, vous êtes dans un truc qui est trop général. Déjà, c'est un terme romain. Donc, déjà, on est mal barré. Alors, vous allez me dire, métaphysique est un terme grec, je vais revenir là-dessus. Mais surtout, vous êtes en train de dire, il y a du sacré partout. C'est-à-dire que vous êtes dans une forme d'universalisation. On critique l'universalisme, mais là, on a affaire à des termes bien précis qui universalisent. Et vous avez la grande décision, elle vient de Durkheim, par exemple, qui dit, voilà, on pourrait dire que tous les peuples croient en Dieu, c'est faux puisque les bouddhistes ne croient pas en Dieu, donc on va remplacer Dieu par le sacré, et en fait c'est ça qui se retrouve en toute religion. Là vous voyez que c'est toujours la même question, comment définir le religieux, et c'est cette illusion qu'il y a du religieux qui fait qu'il y a une illusion qu'on sait dire, ah tout le monde croit à du sacré. Voilà, bon. Et à mon sens, ça va pas. Et du coup, j'essaie simplement de dire, non pas que tout le monde fait qu'il y ait une sorte de pulsion naturelle vers la métaphysique, je dis simplement qu'il y a un certain espace qui excède. Je dis pas, je sais pas, c'est pas ce que c'est moi, mais c'est au-delà du visible, ça excède, c'est autre chose. Et il y a une multiplicité de manières d'y faire droit, de le qualifier, etc. Et qu'il y a énormément de choses qui se passent à ce niveau-là, en tout cas au niveau discursif, qui a une répercussion extrêmement forte sur les corps, sur la façon dont les corps interagissent et sur le monde social lui-même, quoi. Bon. Donc voilà, oui, tout ça pour dire que par exemple Chakrabarti et Assad, je dirais c'est les deux qui se sont le plus rapprochés de cette affaire-là, de cette idée-là, et j'ai moi toujours pas trouvé de choses complètement satisfaisantes, parce que on franchit pas ce cap en fait de la métaphysique. Et souvent, ça vient du fait qu'ils ont des influences... ils s'appuient souvent à ce moment-là sur des auteurs européens, en fait. Mais ça serait une autre question. Et j'espère ne pas être trop internaliste, mais la question...
Merci beaucoup pour la présentation. Qu'est-ce que vous pensez du concept ou de la théorie du plurivers, dont parle notamment Arturo Escobar et d'autres auteurs plutôt d'Amérique latine? Ouais. Est-ce que ça vous paraît intéressant et ou pertinent pour aller au-delà justement d'un concept de monde, comme on a peut-être l'univers qui serait plus large, plus vaste que le monde, et qui pourrait englober justement l'invisible, notamment des peuples autochtones d'Amérique latine? Ou est-ce que ce serait à critiquer aussi? Voilà.
Ouais, merci beaucoup. Le plurivers. Le pluriversalisme décolonial. C'est une question complexe, celle-là, mais je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Et je dirais ça même de toutes les orientations ou les mouvements de pensée décoloniaux, je veux dire, ça n'aurait aucun sens de dire que je suis contre. Je suis la même orientation. Je pense que c'est une orientation collective qui doit être poursuivie. En revanche, elle ne doit jamais se figer, puisque c'est un mouvement. Et d'ailleurs, aucune forme d'école ne... Enfin, je veux dire, si on crée une école, on va faire la même chose que les petites églises, c'est-à-dire une doctrine figée, etc. Bon. Mais ça, ce n'est pas un mouvement. Et ceux dont ce mouvement de pensée se dit fidèle, ce sont justement des mouvements. Voilà. Et des mouvements d'ailleurs qui ont échoué, souvent quand ils ont reproduit une forme État, on sait à quel point la forme État doit à la forme Église et à la forme impériale, donc ça fait partie aussi de leur échec, le moment où ça se sclérose dans une sorte de dogme dont on considérait que si vous n'y croyez pas, justement, vous êtes hérétique. Bon. Et si par pluriversalisme, on veut dire, ou pluriversel, ou pluriverse, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, on veut dire qu'il faut absolument être pluralisme, et d'ailleurs le modèle du pluralisme c'est tel ou tel penseur ou Gilles Deleuze, dans ces cas-là, non. Voilà. Or, souvent, c'est ce qu'on fait. Je suis contre, parce que je pense que... Alors, ce n'est pas l'objet de ce livre, mais en vérité, c'est l'objet d'un autre livre qui n'est pas publié. Je n'aime pas faire ça, parce que d'un côté, ça montre un livre qui n'est pas là, et en plus, ça fait comme si j'en avais 12 derrière, etc. Bon. Mais malheureusement, c'est comme ça. Ben oui, mais non, mais en fait, ça n'a rien de très esthétique. C'est simplement lié au fait que quand on publie, il faut les faire les uns après les autres. Et alors, du coup... Mais ça doit être présent dans quelques trucs qui sont publiés. Mais c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, par exemple, le racisme, ça fonctionne pas toujours de la même manière. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'ai fait, parce que là, je suis en train de vous parler de l'invisible, d'écologie, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que mon point de départ était, et j'en parle plus, mais en fait, d'une certaine manière, j'en parle toujours encore, mais j'ai plus envie d'en parler de manière directe. Mon point de départ a été d'essayer de comprendre comment ceux qu'on appelait les Arabes en France et en Europe, etc., et maintenant, ou en tout cas depuis le 11 septembre, les musulmans et les musulmanes, comment est-ce qu'on était racialisés, voilà. En fait, c'est ça ma question de départ, et en fait, d'une certaine manière, je m'en suis éloigné pour essayer de comprendre les choses de manière plus vaste. Et bien en fait, si on regarde la façon dont ça se passe, on rencontre bien sûr la question du racisme, on rencontre la question de la racialisation spécifique de la religion, on rencontre la construction de cet objet même religion, et on rencontre bien sûr la question de l'orientalisme. Bon, pourquoi je dis ça ? Parce que en fait, si vous regardez, et ça explique aussi les analogies entre ce qu'on va appeler, disons, l'antisémitisme d'un côté et l'islamophobie de l'autre, c'est que souvent... et c'est rarement pris en compte même par les décoloniaux ou les critiques du racisme, il y a une base théologique de cette affaire. C'est-à-dire, on dit, les monothéismes, c'est mal. Donc, les monothéismes sont source de la violence, la confusion de la politique et de la religion est encore plus source de la violence, or l'islam confond politique et religion, donc tous les musulmans et les musulmanes sont potentiellement séditieux, séparatistes, et donc constituent une menace pour la nation, l'ordre public, etc., etc. Donc le racisme ici fonctionne par attribution au corps racisé, si vous voulez, d'un potentiel plus ou moins naturel, essentiel, de confondre le politique et le religieux et d'exercer la violence au nom de Dieu, quoi, en gros, bon, voilà. Qu'on considère comme étant la pire des violences, pire bien sûr que la violence exercée au nom de la nation, la sécurité, qu'on considère comme plus réelle puisque la nation ça existe, et Dieu non. Là encore, vous voyez, c'est en fait là dans les questions de pouvoir et de racisme, il y a de la métaphysique. Non, ça n'existe pas. Mais il se trouve que la violence, elle existe dans les deux cas. Mais enfin bon, bref, enfin elle a des effets quoi. Bon, alors pourquoi je dis ça ? Parce que du coup, je suis en train de te tourner autour d'un thème, c'est que cette espèce d'idée selon laquelle dès qu'il y a l'un ou l'unité, etc., c'est mal, et il faut absolument qu'il y ait du pluralisme, j'invite à questionner cette affaire, voilà. À me dire, bah tiens, est-ce que c'est aussi simple que ça ? Et est-ce que dès qu'on pluralise, il n'y a plus d'exclusion ? Ben non, parce qu'en fait, en général, et c'est comme ça que fonctionne le pouvoir aujourd'hui, il ne fonctionne plus avec, vous allez dire, plus personne, à part dans certains États, effectivement, mais qui sont marginaux en termes d'exercice du pouvoir, et surtout dans le capitalisme globalisé. Je veux dire, le pouvoir aujourd'hui, il suffit de lire Foucault et encore plein d'autres, pour bien voir que, je veux dire, qui a encore du pouvoir aujourd'hui en disant, voici la vérité absolue, soumettez-vous. Non, je veux dire, ça fonctionne de manière justement beaucoup plus multiple, rhizomatique, entre guillemets, et complexe et diffuse. Bon. Donc en fait, c'est plus ça le pouvoir. Voyez bon. En revanche, je pense que le pouvoir, si vous me permettez l'expression, fonctionne beaucoup plus en disant « Oui, bien sûr, nous sommes une société absolument plurielle. » En délimitant les limites de qui est inclus dans la discussion et qui n'est pas inclus dans la discussion avec un pluralisme limité. Donc le problème, c'est plus de savoir s'il y a un pluralisme ou qu'il y a quelqu'un qui essaie d'imposer une seule vérité. Le problème, c'est de dire qu'est-ce qui est exclu du pluralisme. Voyez, c'est quoi les limites du pluralisme? Qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui n'est pas dedans? Et qui a le pouvoir de dire, voilà une société démocratique parce que pluriel, mais c'est moi qui décide quelles en sont les limites et qui a le pouvoir surtout de faire en sorte que ces limites ne soient pas visibles. Voyez, donc des pluralismes, il y a justement une pluralité. Voyez, bon, et donc si vous dites simplement qu'avec le plurivers, vous allez vous en sortir, je pense que c'est naïf politiquement. La question, c'est quel plurivers versus quel plurivers à la limite. Voilà. Mais il y aurait en fait plein de choses à dire là-dessus, mais je dirais que dans le livre, la seule chose qui est dite, c'est que si vous ne prenez pas en compte la parole de ceux qui ont un discours sur l'unicité, qu'elle soit divine ou non divine, par exemple, il y a un discours sur l'unicité de la réalité ultime dans le bouddhisme, mais ce n'est pas forcément Dieu, bon, c'est pour ça que je dis ça. Là, vous n'êtes pas dans le pluralisme. Or, moi, ce que je vois, c'est que dans beaucoup d'ontologies pluralistes ou anthropologies pluralistes, il n'y en a pas. Voilà. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une dynamique d'exclusion, mais qui n'est pas explicite, bien sûr, parce que vous n'allez jamais dire explicitement qui est exclu. Mais en fait, de fait, quelqu'un l'est. Voilà. C'est ça que j'aurais tendance à dire. Voilà. Bah, j'espère que c'est clair. Mais il y a quelqu'un, j'en profite parce qu'il n'y a pas de questions encore, je ne voudrais pas monopoliser le... Mais il y a quelqu'un qui a influencé beaucoup des coloniaux, etc., qui n'est pas cité beaucoup par eux, à part par Mignolo, et qui est repris dans ce livre explicitement, qui s'appelle Abdelkébir Khatibi, et qui a écrit en français. Voyez. Donc là, vous voyez, il y a encore une autre forme d'exclusion. Voyez. Pourquoi est-ce que le décolonial en France ne parle pas des auteurs francophones maghrébins et parle des auteurs latino-américains qui écrivent en anglais ou en latin, et en fait, il faut que ça soit retraduit en France pour qu'on parle du décolonial, alors qu'en fait, les auteurs qui viennent des marges coloniales de la France ne sont pas pris en compte. Voyez, là, il y a un problème, de facto. Voyez. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un peu le sens de mon premier livre, si vous ne prenez pas en compte la colonialité de ce qu'elle se déploie dans votre pays, vous pouvez vous dire décolonial, ça ne changera rien. Donc si vous voulez, c'est pareil, c'est-à-dire la fascination pour l'Amérique latine, parfait, très bien. Si on était aux États-Unis, là, ça aurait un vrai sens politique, voyez. Mais là, on est en France. Donc ça peut avoir un sens qui s'appelle l'exotisme, c'est-à-dire recouvrir les problèmes de la colonialité ici, à l'aune de ce qui se passe ailleurs, en fait. Bien sûr, si vous prenez des gens qui ne peuvent pas parler ici, c'est plus simple. Et une des premières choses, c'est justement un certain nombre de collègues qui ont travaillé justement sur des terrains très intéressants, qui eux-mêmes le savent, qui connaissent ces effets-là. Ce n'est pas pour dire que tous ces travaux sont problématiques, loin de là. Mais justement, quelqu'un qui avait été très impliqué dans le fait de ramener justement des acteurs activistes dits autochtones, le terme est mauvais, mais bon, c'est comme ça, dans des manifestations, dans des événements publics, etc., en Occident. Et la première chose qu'il disait au public occidental, c'était précisément, mais arrêtez de faire comme nous, cherchez dans vos traditions et cherchez en vous. C'est pas forcément en essayant d'être absolument non-européen que vous allez forcément sortir de la colonialité, entre guillemets, voyez. Sinon, ça serait trop simple, mais il faut aller regarder ce qu'il y a là. Voyez, bon. Et c'est vrai que moi, quand j'entends qu'on va décoloniser le savoir et qu'en en fait, on ne parle jamais de l'empire colonial français alors qu'on est en France, je me méfie. Ouais. C'est-à-dire, je me dis, bon, il y a une pièce du puzzle qui manque politiquement. C'est-à-dire, il y a une volonté de dépolitiser ce que l'on appelle décoloniser, à mon avis. Voilà. Donc, c'est ce que je dirais, mais c'est une vaste, vaste question, ça. Mais je vous remercie, par contre.
Oui, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, c'est bon, on m'entend. Vous avez dit dans votre première présentation que dans votre livre, vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que l'animisme était autant à la mode en Occident. Et est-ce que vous pouvez revenir sur ça, sur les réponses que vous apportez dans le livre ? Et aussi, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Enfin,
je... D'accord. Est-ce qu'on ne prendrait pas plusieurs questions ? Peut-être, parce que c'est juste que je le réponds longuement. Donc j'aimerais bien que tout le monde puisse parler et que je... Voilà, c'est ça.
Si. Je suis derrière le pilier, désolé. C'est deux questions. Les deux sont sûrement assez naïfs parce que je n'y connais pas grand-chose. J'ai lu un bouquin de Maurice Godelier une fois, mais c'est tout, quoi. Je trouvais très bien, par ailleurs. Mais la première, c'est est-ce qu'il existerait des cultures humaines, voilà, je ne sais pas comment formuler la chose, mais où la dichotomie fut-elle poreuse, à quel degré ou quoi, mais entre là et au-delà, ou entre rêve et veille. Et deuxième question qui a un peu rien à voir, mais je me suis posé récemment, mais peut-être que vous avez la réponse ou quoi, je me suis posé la question dans le système numérique de la culture arabo-musulmane au Moyen-Âge, tout ça, il y a l'apparition du zéro, mais alors qu'il y a Tawhid dans la culture, mais. Et pas en Occident, dans l'Occident chrétien. Alors, est-ce que ça vient de la numération déjà indienne ou quoi ? Mais ça m'a posé question, le fait de les dix monothéismes par l'anthropologie, étaient pensés comme des pensées de la plénitude. Et pourtant, il y a quand même cette présence du zéro, quoi. Dans le... Voilà, c'est une question. Je ne sais pas s'il y a...
Non, t'embête pas, je prends. Eh bien, je veux bien vous relancer sur l'utilisation du terme de métaphysique.
Ouais.
Voilà. Et ensuite, lorsque vous dites que les sciences sociales ont besoin de philosophie, est-ce que vous entendez de la métaphysique ? Voilà. Et pareil, avoir recours à la philosophie, je ne sais pas, peut-être que je me pose avec des amis une fausse question. Est-ce que la philosophie est à une sorte... d'OPA sur la pensée. Est-ce que la philosophie, c'est un geste occidental de prise de pensée, ou est-ce que c'est justement un problème d'occidentaux de croire que ça commence en Occident ? Voilà, qui est peut-être un faux débat d'ailleurs.
Ouais, je comprends.
Voilà. Donc pourquoi ces termes de métaphysique et de philosophie ?
Ouais, absolument, absolument. Ok, bon, peut-être on prend trois comme ça. Ouais, c'est bien. Vous voyez la Trinité. Notre cerveau est chrétien. Hein. 1, 2, 3. Après, on est perdu. Donc voilà, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc. Bon. Ok. Donc. Alors, pourquoi la mode de l'animisme ? C'était ça. Hein ? Mais tout simplement parce qu'il me semble que c'est le cas et qu'il y a énormément de livres qui se publient là-dessus, qu'il y a un intérêt pour ça, que dans la sphère artistique, par exemple, ça a un relais extrêmement massif, que... je ne sais pas, en fait, ça me paraît être un fait social, justement. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que souvent, on va rentrer dans les termes du débat en essayant de trouver une solution comme ça à la crise climatique, en disant, bon, si on changeait notre rapport à ce qu'on appelle du coup le vivant, les choses se résolveraient, etc. Alors bien sûr, il y a une critique marxiste de ça que je partage en partie parce que je pense qu'elle dit quelque chose qui est quand même fondamental, même si, il y a certains articles qui ont été publiés là-dessus, consistant à dire, voilà, si vous parlez du vivant, vous parlez pas du capitalisme. Or, c'est de ça dont il s'agit, et il s'agit effectivement, moi je fais partie de ceux qui disent ça, c'est-à-dire je sais bien qu'il n'y a pas que des problèmes d'énergie fossile, bien sûr, mais je veux dire, il y a quand même ça qui est quand même central. Je veux dire, vous pouvez dire qu'il y a un problème global tout en disant qu'il y a il y a des zones d'intensification du problème global. Enfin, ça fait vraiment partie de quelque chose de très spécifique et de très matériel, et qui n'a pas très simplement à la conception du vivant, si vous voulez. Et une des raisons pour lesquelles je m'étais intéressé au rapport au souterrain, et en fait, dans ce livre, j'en ai pas parlé, mais j'aurais probablement dû. À un moment donné, j'avais rencontré des... ça va me permettre aussi de vous répondre. Dans mon travail d'archives, j'avais essayé que j'ai fait plutôt pour le premier livre, mais dans lequel je reviens, etc. Sur lequel, pardon, je reviens dans ce livre. De dire, mais en fait, vous voyez, si on suit... cette espèce d'idée sur laquelle il y aurait séparation nature-culture, l'animisme ne séparant pas, etc. Bon, on est sur un plan où le problème, d'une certaine manière, c'est comment on est arrivé alors même pas vraiment sacrifier les bêtes, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a, on tue des bêtes en régime animiste, c'est pas vraiment le problème. Alors éventuellement, c'est quoi ? C'est le fait d'expliquer qu'on fasse de l'élevage intensif. Bon, mais ça, vous devez passer quand même par une explication un peu historico-économique, quoi, de tout ça. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est pas simplement juste notre rapport au vivant qui a changé, et quand bien même il aurait changé, il a changé aussi justement sous l'effet à la fois de causes beaucoup plus spirituelles, à savoir comment est-ce que notre rapport, comment en fait le rapport entre christianisme et société disons séculière s'est transformé. Ça, c'est évident qu'à un moment donné, si vous voulez expliquer la trajectoire de l'Occident, vous allez devoir vous y intéresser. Et de l'autre côté, bah, qu'est-ce qui se passe de manière beaucoup plus matérielle que simplement le vivant ou le partage nature-culture, qui est simplement le capitalisme. Et donc oui, je disais simplement que si vous regardez le rapport au souterrain, pour pouvoir extraire du charbon massivement, il faut au moins deux choses. Déjà que la propriété de ces sols n'appartiennent plus à l'Église. Donc ça, c'est d'emblée une sécularisation. Vous le voyez si vous étudiez un peu l'histoire de cette affaire, vous le voyez. Et d'autre part, il faut que les... j'essaie de ne pas parler de croyances, mais les traditions qui permettent d'affirmer que dans le souterrain, il y a des dragons, il y a des démons, il y a des non-humains, justement, invisibles, spirituels, en fait. Bah, pour ce faire, pour pouvoir extraire, en fait, déployer l'activité minière de manière réellement intensive, vous devez dire, bah non, il n'y a rien, en fait, sous la terre, là. C'est complètement désenchanté. Bon, j'avais rencontré ça au hasard d'une archive qui m'avait fait... il y a un mandarin qui dit... un administrateur colonial veut justement exploiter ce charbon, qui lui dit bah non, vous pouvez pas exploiter le charbon puisqu'il y a un dragon souterrain qui est en fait le corps même de la mine, et si vous exploitez la mine, vous allez réveiller le dragon. Et effectivement, bah évidemment, mais comme vous et moi, hein, l'administrateur colonial, il dit mais n'importe quoi, c'est une superstition. Et on dirait la même chose. Voyez, donc là-dessus, vous êtes de toute façon encore coloniaux, vous voyez. Ou en tout cas, tant que vous ne serez pas posé cette question-là, vous pouvez vous décoloniser tant que vous voulez, vous y serez pas, quoi. Bon. Alors, j'imagine bien, hein, ça dérange un petit peu les choses, parce qu'il faut faire un autre type de travail que simplement dire nous sommes contre le racisme, etc. Ce qui est très bien, mais ça suffit pas. Là, vous voyez, vous avez directement affaire effectivement à quelque chose qui va déterminer votre rapport à la nature. Voilà. Mais en fait, là, le problème, c'est pas un problème du type est-ce que j'attribue une âme à une plante ou non. Le problème, c'est simplement est-ce que ce qui est sous mes pieds est simplement physique, ou est-ce qu'il y a des réalités métaphysiques sous mes pieds, quoi. Voilà. Bon. Et des réalités invisibles, spirituelles sous mes pieds. Et vous voyez, et en fait, ça, c'est quelque chose que vous retrouvez à plusieurs endroits du monde, disons. Enfin, là, je mentionne vraiment des choses de manière... Enfin, en passant, je ne fais pas une sorte de comparaison hyper poussée, mais vous trouvez des analogies entre plusieurs zones du monde. Et vous voyez que même lorsque l'extractivisme se déploie, il a souvent affaire à ce type de pratique qui coexiste avec lui, justement. Donc ça, c'est simplement pour dire que... pour dire tout simplement qu'on a affaire à des problèmes un peu plus complexes, mais que cette espèce d'idée, enfin, cette position du problème en termes de... nous, les naturalistes, vs eux, les animistes, permettent de poser. C'est juste une manière d'amener d'autres questions dans la conversation. Et soit dit en passant, il y a une phrase de Latour que j'avais vue dans un livre qui était lié au débat sur la Loire, etc. Est-ce que la Loire peut avoir des droits, etc. Bon. Et où il avait dit quelque chose qui était quand même, à mon avis, important, mais alors justement, à la fois important et en tout cas discutable, en tout cas qui devrait être soumis à discussion, il disait, OK, c'est très bien de vouloir donner des droits à la Loire, mais le problème, c'est que par exemple, le Gange, on lui donne des droits parce qu'il est reconnu comme sacré. Et il a raison. C'est-à-dire que oui, c'est très bien de dire vive la nature, on va avoir un nouveau rapport avec la nature, etc. Mais sauf que le problème, c'est que même dans l'animisme d'ailleurs, parce que les âmes, c'est pas quelque chose de visible en fait. Hein, vous voyez, c'est autre chose, quoi. Il y a un voyage animique via les rêves. Vous voyez, vous sortez de votre corps littéralement. Bon, donc c'est à faire justement, ça a trait à d'autres dimensions du réel. Et tant que donc vous voyez, c'est pas juste nous et la nature, c'est nous, le ciel, la terre. Vous voyez ? Et en fait, en général, le moment ciel, alors non, on n'en veut pas. Pourquoi ? Bah parce que justement, on est sécularisé. Donc en fait, tout ce débat, et à mon avis, entre guillemets, la mode de l'animisme, elle vient du fait qu'en fait, bah, c'est complètement traductible dans des termes qui sont très modernes, mais naturalistes. Parce qu'en fait, on dit oui, on ne croit plus en la nature, mais en fait, ça nous permet de réactiver cet imaginaire de notre proximité avec la nature. Donc on est encore en fait dans un registre moderne, même quand on croit parler du lointain. Pas toujours, bien sûr, pas toujours. Mais c'est ça que j'aimerais bien questionner pour ouvrir un débat. Enfin, l'idée n'est pas du tout de dire voilà, il faut absolument plus parler de ça, etc. Non, l'idée c'est plutôt de dire si on prend en compte d'autres traditions, puisque le monde est plus divers que simplement des modernes occidentaux et des animistes amazoniens. Et justement, les autres traditions, si on les met dans le tableau, on a affaire à quel pluralisme, quoi. Vous voyez, bon, j'ai l'impression de répéter ça mille fois, mais je pense que c'est ça l'idée. Qui est une proposition ouverte. Hein. Je ne suis pas en train de donner une sorte de système clos ou fermé. Quoi. Bon. Alors ensuite, il y avait des questions très difficiles. Et alors effectivement, sur la question de la philosophie, moi, je l'assume en fait dans ce livre que je parle pas en tant qu'anthropologue, mais je parle en tant que philosophe parce que j'ai été formé dans cette... pour moi, c'est pas une discipline, mais elle a pris la forme d'une discipline depuis peut-être le 19e siècle, dans la mesure où la philosophie s'est intégrée dans ce qu'on appelle l'université, qui date en gros de Humboldt, quoi. Bon, fin 18e, début 19e. Donc qui fondamentalement est allemand, protestant, etc., par certains aspects coloniaux, bien sûr. Bon, enfin, ça va sans dire, en fait. Mais ça, c'est une séquence tardive en fait de la philosophie, qui pour moi est une pratique qui en fait n'a jamais été disciplinaire puisqu'elle a au moins 2000 ans. Bon, après, effectivement, ça pose la vieille question de la philosophie commence-t-elle avec les Grecs. Moi, j'aurais tendance à dire, et je le dis un peu dans le livre, qu'effectivement, elle commence pas simplement là, mais quand bien même elle commencerait là, ça ne veut pas forcément dire qu'elle commence en Occident. Puisque c'est justement au moment où les universités et la philosophie universitaire se créent à la fin 18e, début 19e siècle, qu'on invente le miracle grec. C'est-à-dire, comme vous le savez probablement, enfin, il y a ça dans Black Athéna, mais on trouve ça aussi ailleurs, de dire qu'au fond, je pense que c'est vraiment fondamentalement vrai, qu'à ce moment-là, l'Occident, et surtout via la science allemande, et via aussi l'hellénisme allemand, et via en fait l'orientalisme allemand, parce que, et en fait l'idéalisme allemand, parce que les acteurs de ces trois disciplines, ça circule, tout ça. Bon, on dit les Grecs, nos ancêtres. C'est-à-dire, nous sommes la continuation, les successeurs légitimes des Grecs. Mais vous imaginez, après combien de civilisations qui avaient dit la même chose, quoi. Donc, ça veut dire que l'héritage grec, et peut-être ça serait contestable pour un certain nombre de collègues et amis des coloniaux, mais à mon sens, l'héritage grec n'est pas un héritage occidental, en fait. Donc moi, je n'ai pas vraiment de problème à mobiliser Platon, par exemple, parce que je n'ai pas l'impression de mobiliser une source purement occidentale. Ne serait-ce que parce que, et en vérité, pour moi, ça n'est pas la seule raison, mais ne serait-ce que parce que, si vous prenez la philosophie, alors disons, juive et musulmane, dont on ne peut pas vraiment considérer qu'elle est occidentale, elle fait partie en fait de la continuation de cette tradition grecque. Et pas seulement parce qu'elle a permis à l'Occident de retrouver les archives grecques, voyez, ou les textes grecs, ce que bien sûr on a dit, comme vous savez toutes et tous. Mais et je voudrais ajouter à ça autre chose qui n'est certainement pas suffisant pour répondre à votre question, qui est ample et provocatrice au bon sens du terme. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que... oui, d'une certaine manière, mon geste peut-être consiste à peut-être à dire que on n'a pas forcément besoin de chercher aussi loin que ce qu'on croit, ou peut-être c'est bien de chercher loin, mais cherchons proche aussi, et que d'une certaine manière, voyez par exemple, si je prends simplement l'exemple de la philosophie dite arabe que je dis souvent, je suis content de jamais être devenu un spécialiste de philosophie musulmane ou arabe. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une sorte de carcan dans lequel on nous enferme en réservant, en réduisant cette philosophie-là au passé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit simplement de faire de la philologie quand on étudie ça avec, et en fait, très peu de gens, et surtout, très peu personnes issues de l'immigration postcoloniale en France, donc majoritairement du Maghreb et un tout petit peu de ce qu'on appelle le monde arabe ou le Moyen-Orient, la possibilité de parler un arabe classique qui permet en fait d'avoir accès à ces textes pour faire autorité dans l'université. Donc, en fait, cette espèce de notion sur laquelle il faudra avoir un arabe classique absolument béton pour vraiment penser ses sources et être un vrai spécialiste de l'arabe, quel que soit ce que ça veut dire, fait en sorte qu'en fait, c'est réservé soit à une toute petite élite, c'est de moins en moins le cas, mais quand même à une élite qui, en fait, est complètement culturellement étrangère à ce genre de sources et qui objective ses sources. Donc, on ne peut plus penser avec. C'est ça que ça veut dire. On ne peut plus penser avec. Du coup, moi, j'aimerais bien penser avec. Ça ne veut pas dire que je veux penser qu'avec ça, bien sûr. Mais j'aimerais bien pouvoir penser avec, comme j'aimerais bien penser avec un texte bouddhique et bien sûr avec une parole animique ou une parole animique d'un chef amérindien qui restitue ce qui se passe au moment de la colonisation des Amériques, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de penser avec ça. Bon. Et d'une certaine manière, ce livre est une préparation à ça, dans la mesure où je pense que si je faisais juste ça, probablement mon livre ne serait jamais publié, ou en tout cas, l'audibilité serait compliquée, parce qu'il faut de fait ouvrir un espace. Et cet espace, ça veut dire que si vous ne questionnez pas justement les présupposés de la pensée contemporaine aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir penser avec ces sources, en fait. Parce qu'il faut faire bouger les présupposés d'aujourd'hui si vous voulez penser avec... autre chose. Et tant que vous n'aurez pas fait ça, vous voyez, c'est pas juste ce que décoloniser, je sais pas quoi, là, le savoir, ça présuppose qu'il faudrait résister à quelque chose. Bon, très bien. Je pense qu'il faut résister à quelque chose, mais il y a aussi des questions d'espace qui se jouent. C'est-à-dire, il y a un espace qui est monopolisé, vous devez souvent créer d'autres espaces, quoi. Des espaces de parole, mais aussi des espaces d'écoute. Parce que c'est pareil, le truc, oui, on a notre espace de parole. Super. Bien. Mais si personne vous écoute, c'est quoi l'espace de parole ? Et souvent, et je pense que ça fait partie des coordonnées du problème, alors bien sûr, il y a le racisme, il y a le sexisme, il y a toutes ces formes d'exclusion, mais il y a aussi, parallèlement, et même lié à ces formes d'exclusion, en fait, une forme d'exclusion dont on ne sait pas quoi faire et qui souvent est invisible, qui consiste à dire « c'est n'importe quoi ». Dieu n'existe pas, pourquoi tu me parles de ça ? Sois rationnel, tout ça, c'est de la superstition, tu vas quand même pas me dire qu'il y a un dragon sous terre, quoi, bon. On arrête les conneries, bon, etc., etc. Qui d'ailleurs est liée à une certaine forme de masculinité, une certaine forme de masculinité associée à la rationalité dominante des lumières, le réel, ici, c'est là, machin, bon. En gros, pourquoi je dis que c'est lié au sexisme ? Parce qu'en fait, notamment des gens comme des historiennes comme Joan Scott ont bien montré que. Vous voyez, par exemple, la non-attribution de citoyenneté aux femmes au moment de la Révolution française était aussi liée au fait que les femmes étaient considérées comme les alliées des prêtres. Donc, il y a ce truc de la bonne femme catholique qui croit en Dieu. Bon, on la laisse à la maison parce que c'est bien pour élever les gosses. Et c'est un facteur ou une protection de l'ordre, en fait, moral. Et ça, en fait, cette espèce de réduction de la religion à la sphère familiale, vous la trouvez mise en place juridiquement sous Napoléon. C'est-à-dire, c'est un moment de sécularisation. Et dans les sociétés musulmanes, ce qui se passe avec cette idée d'un code de la famille, vous voyez, qui sert très clairement, qui conduit, un certain nombre de règles normatives musulmanes à, en fait, être des instruments de domination des femmes, aucun problème là-dessus. Enfin, je veux dire, oui, c'est vrai, quoi, mais ça vient d'où ? Enfin, ça vient pas de l'essence de l'islam. Vous voyez, si vous dites ça, en fait, vous réduisez... Déjà, vous dites un truc qui est faux, mais surtout, vous rendez impossible le fait de contester ce genre de normes patriarcales de voyer de l'intérieur, et surtout, c'est des choses historiquement hyper récentes. Bon, alors, métaphysique et philosophie. Il faut quand même que je vous réponde, vous voyez, je suis parti ailleurs. Et après, j'arrêterai. C'est pour ça que je voulais en prendre trois. Ce sont des termes stratégiques, voilà. Mais je pense que j'ai essayé de préparer le fait de dire que c'est pas parce qu'un terme a une origine grecque que c'est forcément problématique. ce qu'il faut faire, c'est simplement le requalifier, quoi. Voilà. Et quand je dis religion, c'est problématique, c'est pas simplement l'origine du mot qui le rend problématique, c'est son usage. Le fait de dire religion renvoie à une essence, un fait anthropologique universel, vous voyez. Si vous voulez, métaphysique pour moi n'est pas une sorte de correspond pas à une essence humaine. Au contraire, c'est justement autre chose, quoi. Bon, une manière de le qualifier. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que la raison pour laquelle j'ai fait appel, déjà, il nous faut un terme. Je pense qu'à un moment donné, il nous faut un terme. Et je dis que c'est stratégique dans la mesure où, justement, on est là maintenant en Occident et que, en fait, on a un outil qui est celui-ci et qui renvoie à une temporalité beaucoup plus longue. Et en fait, de fait, à mon avis, pas seulement occidentale, là où les sciences humaines ont 2 siècles. Vous voyez ? Et en étant complètement localisé dans mon temps en Occident aujourd'hui, ce à quoi j'ai affaire dans le petit milieu depuis lequel je parle, c'est des collègues, un système de savoir qui est aussi un système de publication qui dit voilà, qu'est-ce qui compte comme science et qu'est-ce qui compte pas comme science. Je veux dire, qu'est-ce qui compte comme sérieux et qu'est-ce qui compte pas comme sérieux. Vous allez jamais, mais jamais, vous extraire de cette question. Vous êtes dans le pouvoir. Voilà. Donc moi, j'ai affaire à cette question et donc je compose avec elle, vous voyez. Et ce que j'essaie de faire, c'est de faire bouger un petit peu, tant que je peux, le critère. Voilà. Parce que ça me paraît être justement ma contribution à faire en sorte que ça se décolonise, si on veut. Mais bon, faire en sorte qu'il y ait du mouvement, en fait. Et quelque chose qui a été émancipateur et émancipatrice, une chose qui a été émancipatrice et qui a été du mouvement dans les années 60 ou 68 peut être figée et problématique aujourd'hui, vous voyez. Et c'est possible, et c'est fort possible. Et du coup, donc j'essaie simplement de faire ça, et il me semble qu'une part, surtout en France, de ce qui rend les choses délicates, ou difficile à faire avancer, c'est aussi le fait que beaucoup de collègues en sciences humaines considèrent qu'il y a le terrain, il y a les archives, et tant qu'il n'y a pas ça, c'est pas scientifique ou ça n'a pas de valeur. Et bien en fait, la seule chose que j'essaie de dire, c'est ça, dire ça, c'est une décision qui suppose en fait d'ores et déjà le fait de prendre position à l'intérieur de la philosophie et même une position métaphysique, mais pour des raisons historiques qui sont liées au devenir même de l'Occident, vous voyez. Donc j'essaie simplement de revenir, vous voyez, c'est un dialogue avec les sciences humaines, je ne suis pas en train de parler en général hors de mon temps. Et en dialoguant avec les sciences humaines, effectivement, j'essaie simplement de leur renvoyer la balle pour 2 raisons. Premièrement, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, mais vous, les philosophes, vous êtes encore perdus dans des choses qui ne sont pas scientifiques. » D'un côté, nous, les sociologues ou nous, les anthropologues, on est allés plus loin puisque en plus, on a le terrain alors que vous, vous spéculez sur des choses qui n'ont pas de rapport au terrain et donc, par définition, n'existent pas. On retrouve le fait de dire « ça n'existe pas ». Mais de l'autre côté, on a un tournant qui s'appelle ontologique qui nous dit « Ah, il y a des ontologies ». Et là, vous êtes quand même... Enfin, c'est drôle puisque, en fait, c'est un terme philosophique par excellence dont on va maintenant considérer que c'est le nouvel universel anthropologique, même si on ne dit pas forcément ça. Donc, à un moment donné, il faut choisir. Donc, vous n'avez pas besoin de philosophie, vous avez besoin de philosophie. Vous en faites pas. En fait, si, vous en faites. Mais si vous en faites, on peut critiquer le fait que ontologie, peut-être, c'est pas le meilleur terme et que c'est un terme moins... J'aurais envie de dire subtil, mais surtout agile, peut-être, que ontologie, pour des raisons dont j'avais parlé avant, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut juste sortir de cette binarité de l'être et du non-être, parce qu'il y a beaucoup de traditions qui ne sont pas, en fait, dans ce genre de binarisme. Et pour moi, le fait d'avoir recours à la philosophie, ça suppose, c'est une manière de donner à ces pensées, justement, une sorte de dignité et de rationalité, en fait. Mais parce que cette idée de dire « Ah, y a la rationalité ne serait que occidentale et tout ce qui n'est pas occidental n'a pas de rationalité », justement, c'est problématique. Ça a une forme de rationalité. Et s'il y a une forme de rationalité, c'est que c'est philosophiquement pensable. Et cette idée de dire « Ah, la philosophie, c'est que l'Occident, etc. », oui, je pense que c'est un petit, ça nous permet pas de le... Voilà. Je dis simplement, en gros, la philosophie, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, est une des manières, en fait, mais parmi d'autres, la création artistique en est une autre, de donner une voix à ses pensées aujourd'hui. Et il faut se libérer du fait de dire « Ah, il faut être fidèle aux sources, absolument. Ben, » Oui, mais non, parce que si vous en faites quelque chose de créatif et que vous pensez avec elle aujourd'hui, ben, peut-être que vous pouvez faire quelque chose de créatif avec ça, vous voyez. Donc, c'est ça que j'essaie de... J'aimerais dire un truc que je n'ai pas dit encore. La couverture de ce livre, parce que je n'ai pas fait ça tout seul, il y a mon nom marqué là-dessus, mais en fait, pareil, en fait, en vérité, vous devriez dire, bon, ben, pourquoi vous mettez votre nom d'auteur ? Oui, c'est vrai. Alors, voilà. En définitive, on devrait en arriver là, parce que tout ça est très moderne, l'auteur qui publie son livre, machin. Bon, mais vous voyez, ça, c'est les circonstances modernes, quoi. Bon. Ça, c'est quelqu'un qui, une artiste qui s'appelle Monia Ben Hamouda. Que j'ai rencontré via quelqu'un qui l'a justement qui l'a lancé, en tout cas cet artiste, qui en ce moment expose à la fois en Espagne et à Berlin. Et alors ce qu'elle fait, c'est, j'ai publié avec justement cette personne qui est une curatrice, un article dans Flash Art sur elle. Et donc en fait, comme vous voyez, elle fait de la calligraphie et pas vraiment, c'est-à-dire que c'est de la calligraphie libre, quoi. Bon. Et alors évidemment, elle est très consciente de ce qu'elle fait, puisque c'est un travail sur l'iconoclaste. En fait, c'est-à-dire, en gros, vous voyez, la calligraphie, son père était calligraphe. Et en fait, elle utilise, vous voyez, je devrais en fait commencer par elle et non pas par moi. Elle utilise la calligraphie, mais justement pour la détourner, c'est-à-dire qu'en fait, elle crée des figures avec la calligraphie, alors même que la calligraphie est une technique pour éviter la figuration, vous voyez. Bon, et elle est très consciente de ce qu'elle fait. Bon, et tout ça est très intéressant, très intrigant, etc. Et elle est très explicite. Enfin, elle dit très explicitement qu'elle a une culture musulmane. Son père était calligraphe, etc., d'un milieu très traditionnaliste. Elle se considère pas nécessairement comme musulmane, mais ce qu'elle fait, c'est que en fait, elle part de la tradition. De sa tradition, là où elle en est, pour justement, alors on pourrait dire pour la détourner, en tout cas pour s'inscrire en elle et créer en elle, quoi. Et qui, d'une certaine manière, donne lieu à quelque chose de très puissant qui n'aurait pas lieu si elle disait bon, bah, ça y est, la tradition, c'est terminé, je deviens un sujet libre et moderne et je crée ce que je veux. Voyez. Et là, en fait, on voit bien qu'elle crée avec quelque chose qui est donné. Et en fait, le vocabulaire moderne consisterait à dire « Ah, cette tradition qui opprime, qui rend les hommes et les femmes notamment non libres, qui les opprime, etc. Machin. » Bon, oui, par certains aspects, bien sûr, certaines institutions. Mais on voit toujours que justement, parce que ces traditions sont plurimillénaires et qu'elles ont affaire justement à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'humain, en fait, qui excède totalement l'humain. Toute personne qui dit « au nom de Dieu, je fais quelque chose », dit quelque chose qui est par définition impossible, puisque comment voulez-vous parler au nom de quelque chose qui est radicalement non humain, vous voyez, justement, vous voyez, bon. Bah c'est cette question que j'essaie de poser, et ça montre quoi ? Ça montre qu'il y a toujours un potentiel de subversion à l'intérieur de cela, vous voyez ? Et il n'y a rien de plus puissant, à mon avis, que de renverser la métaphysique au nom duquel un pouvoir s'énonce contre ce pouvoir lui-même, vous voyez. Bon. Et alors du coup, je pense que c'est simplement de dire que la philosophie est une manière de le faire, et d'une certaine manière, son geste, le geste qu'elle essaie de faire, j'essaie moi de le faire à ma propre, de ma propre manière, parce que je suis inscrit dans ce discours-là, la philosophie. Bon, alors du coup, la dernière question, et j'essaie de faire vite, parce qu'en plus, je n'ai pas vraiment de réponse, je ne sais plus si vous êtes encore là, vous êtes là. Franchement, alors là, vous êtes en train de poser une question d'histoire des sciences extrêmement technique. Vous êtes drôle parce que vous vous dites « oui, alors moi, je ne m'y connais pas trop », etc. Bon. On voit qu'en fait, plus, moins on s'y connaît, plus on pose les bonnes questions. Non, mais c'est réellement vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tout le temps, toujours, si vous faites profession de sachant, là, où, en fait, il faut toujours avoir une zone de, enfin, le plus de distance possible avec le savoir, en fait, ou cette position du savoir et des institutions, si vous voulez créer quelque chose dans le savoir. Enfin, il faut maintenir une zone d'ignorance, une zone de naïveté, entre guillemets, enfin, une zone de surtout rien à voir avec le savoir, quoi. Enfin, sinon, ça marche jamais, quoi. Bon, même Descartes l'avait dit, bon, donc ça veut dire que c'est vrai. Donc, du coup, oui, alors ça, c'est des très bonnes questions. Je ne sais pas, voilà, je vais le dire, je ne sais pas du tout. Sur le zéro, j'avais su, mais je ne sais plus. Et il faudrait voir si, est-ce que ça a trait effectivement avec cette idée du néant. Alors là, il faudrait voir. Mais moi, je pense effectivement que les innovations mathématiques, les constructions mathématiques soient liées à des décisions, à des intuitions métaphysiques, ça, à mon avis, c'est incontestable. Enfin, c'est sûr et certain même. Donc voilà, vous pourriez regarder, quoi. Est-ce que peut-être Roche-Dirachel, il a parlé de ça, parce qu'il est un très bon un historien des sciences dit arabe. Faudrait voir. Est-ce que le zéro est lié à une conception forcément du coup du cosmos et donc de Dieu, etc. C'est fort possible. Il faudrait voir. Après, la question du 1 rapport au Tawhid et donc à l'un. Enfin, ça, de toute façon, vous trouvez ça dans le néoplatonisme, même chez Platon lui-même. Bon, voyez, c'est là que la philosophie, le discours de la philosophie, le discours platonique. Et Nietzsche avait déjà vu ça. Bon, il le dit de manière très problématique, mais je veux dire, ça a eu une influence en fait sur des traditions spirituelles. Et en fait, la philosophie, si vous le prenez à partir de Platon, mais sans aller jusqu'à Hegel, mais vous regardez d'abord, avant, en fait, ça va bien au-delà de la philosophie. En fait, dans les pratiques spirituelles elles-mêmes, on le retrouve quoi. Bon. Et l'autre question, c'était sur au-delà et ici-bas. Bah, oui, vous avez raison, bien sûr, en fait, ou rêve et veille, voilà. Non, oui, bien sûr, voyez, l'idée de dire que l'espace du rêve remet en cause la présence, l'absence, etc., justement, remet aussi en cause la division de la veille et du rêve, justement, précisément. Et c'est le cas aussi dans d'autres traditions, disons, oniriques, quoi, pour employer ce terme. Ensuite, vous aviez dit quelque chose sur l'au-delà et l'ici-bas. Oui, l'idée d'au-delà, par exemple, cette idée de transcendance, etc., c'est quelque chose que vous ne pouvez pas universaliser non plus. Ça ne se trouve pas dans toutes les... mais je voyais, par exemple, métaphysique ne veut pas simplement dire au-delà. Ça peut vouloir dire simplement en excès ou qui se trouve, ou qui est parallèle, vous voyez. Là, c'est différent, par exemple. Et effectivement, par exemple, quand on parle du dreaming ou de l'espace du rêve, notamment chez certaines populations aborigènes, d'après en tout cas certains anthropologues, parce que j'ai pas étudié ça de première main, c'est plutôt un espace-temps parallèle qu'une origine, vous voyez, par exemple. Mais il me semble que Méta peut vouloir dire ça dans une certaine mesure. C'est pour ça que je dis toujours que métaphysique n'est pas la même chose que théologie. Il s'agit pas simplement de l'au-delà et encore moins de Dieu. C'est bien sûr plus vaste. Bon, tout ça pour dire que je cherche à faire de la philosophie, mais que je viens un petit peu discuter et avec les sciences humaines pour le faire, parce que ça me semble être la manière la plus productive de le faire aujourd'hui. Voilà. Mais peut-être qu'il y a d'autres questions, et voilà.
On te remercie beaucoup.
Merci à vous beaucoup.
Merci.
C'était Rencontre avec Mohamed Amermezian autour de son livre Au bord des mondes, vers un tournant métaphysique de l'anthropologie, paru aux éditions Vue de l'Esprit.
Radio Livre d'Or.